99.1.
I feel a vibration.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce que
je disais
déjà ?
I feel it.
Tout de suite monsieur.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio HDR pour ce nouveau numéro La Voix des Municipales. Dans cette émission, nous donnons la parole aux élus municipaux pour revenir sur la campagne, le terrain, le soir des résultats, l'installation du conseil municipal, mais aussi sur la feuille de route pour les années qui viennent. Aujourd'hui, nous recevons Marine Caron, conseillère municipale, conseillère métropolitaine, candidate aux élections municipales à Rouen avec la liste Réussir Rouen. L'objectif de cette émission est simple, comprendre ce qu'elle retient de cette campagne, ce qu'elle a entendu chez les habitants, comment elle voit son rôle dans l'opposition municipale et quelles priorités elle souhaite porter. Bonjour Marine Caron, nous allons parler de votre ressenti. Pouvez-vous nous le donner ?
Bah, une campagne municipale, c'est un moment de rencontre assez extraordinaire et incroyable. Moi, j'ai fait un choix personnel, je m'y suis consacrée à 100% pendant 6 mois, donc de septembre à mars 2026, pour aller rencontrer le plus possible de Rouennaises et de Rouennais. Les rencontrer dans tous les quartiers, échanger sur leurs problématiques, sur leurs priorités, sur leurs difficultés du quotidien, sur ce qui va bien aussi, parce que dans une campagne, on écoute les choses qui vont mal, mais aussi on écoute les choses qui vont bien, parce que ça peut permettre d'en tirer des leçons pour faire mieux ailleurs par exemple, et forcément c'est hyper intense, on y met toute son énergie, on s'y donne corps et âme, on fait des sacrifices. Moi j'ai fait des sacrifices sur ma vie professionnelle, sur ma vie familiale aussi, j'ai moins vu mes enfants pendant cette période là, je me suis beaucoup reposée sur mes proches qui m'ont soutenue et ont pris le relais, donc oui c'est extrêmement intense, épuisant, mais c'est un épuisement positif. En tout cas moi j'en ressors à chaque fois grandi. J'en ressors riche de plein de rencontres, de plein d'expériences, de plein de paroles, et avec une volonté toujours plus forte de m'engager pour la ville où je suis née. Donc même si les résultats sont pas ceux qu'on avait escomptés ou espérés, on n'en garde que le positif parce que c'est comme ça qu'on avance.
Vous avez quand même amélioré votre score de 2022. Vous avez amélioré votre score de 2020, donc on peut dire que cet effort que vous avez donné pendant cette campagne vous a quand même donné de la visibilité. Vous êtes arrivé aussi en deuxième position.
Oui, bien sûr, on a fait une vraie évolution avec un contexte différent aussi. En 2020, je partais toute seule, sans aucun soutien. En 2026, j'ai su rassembler les partis politiques du centre, de la droite, mais au-delà, beaucoup de citoyens qui ont eu envie de s'engager. Donc forcément, il y a une démarche et une étape qui a été franchie. Il y a un résultat qui est un résultat meilleur. Maintenant, quand on s'engage aussi fort, forcément qu'on a d'autres attentes et d'autres espoirs. Mais j'ai entendu la voix des milliers de Rouennaises et de Rouennais qui ont voté pour nous, qui nous ont accordé leur confiance. Moi, je souhaite être à la hauteur de l'espérance qu'ils nous ont confiée en votant pour nous. C'est pour ça que quand on s'engage sur une campagne, on le fait avec un projet. Et puis après, les choses ne s'arrêtent pas brutalement, au contraire. En effet, on est aujourd'hui 7 élus à être entrés au conseil municipal dans l'opposition, et avec plein de sujets qu'on a déjà commencé à porter et qu'on continuera de porter, qui sont dans la lignée de la campagne qu'on a menée pendant plus d'un an à peu près.
Et bah parlons de votre mandat.
HDR, vous écoutez HDR 99.1
HDR. HDR, le mix de toutes les cultures. HDR.
Effectivement, là on rentre justement dans le concret. Le conseil métropolitain et le conseil municipal ont été installés. Quel avait été votre ressenti pour les deux installations ?
Bah, c'est des moments assez traditionnels, les installations. On va élire le maire de la ville, le président de la métropole, son exécutif, c'est-à-dire les adjoints, les vice-présidents. À partir du moment où un candidat a gagné, il est majoritaire, donc dans tous les cas, les choses s'établissent dans le sens qu'il a voulu. Donc nous, en tant qu'opposition, on ne fait que constater les choses sans avoir de rôle et d'impact sur cette décision-là. Donc nous, on fait le choix en général de ne pas participer au vote de l'élection du maire ou des adjoints par exemple, parce que c'est déjà fait en fait. La prime majoritaire fait que dans tous les cas, il n'y a pas de surprise. Et tant mieux, c'est comme ça que fonctionne la démocratie aussi. Ça permet que la personne qui gagne, son équipe, puisse véritablement travailler, parce que s'il y avait installer une incertitude, et ça empêcherait la ville d'avancer, donc ça n'aurait pas de sens. Maintenant, nous, on a rappelé dans un discours introductif ce qui était important pour nous, à l'échelle de la ville, d'être attentif à un traitement plus équilibré, plus juste et plus sain de l'opposition municipale, parce qu'on avait pendant 6 ans été réduit à néant. Et moi, je continue de regretter que dès qu'on est source de propositions, de suggestions, elles soient balayées d'un revers de la main sur le principe que vous êtes l'opposition, donc ça ne nous intéresse pas. Je pense que l'exercice démocratique, il grandit au contraire des différences qu'on peut avoir, qui parfois peuvent mener à un chemin équilibré dans l'intérêt des habitants, des Rouennaises et des Rouennais. Donc ça, on l'a rappelé. On a rappelé qu'on serait au rendez-vous des sujets sur lesquels les Rouennaises et les Rouennais nous ont demandé de nous impliquer. La sécurité, sous tous ses angles, la vie commerçante, le soutien aux artisans et au commerce, l'attention particulière portée à tout ce qui concerne l'enfance, l'éducation, la parentalité, c'est des sujets extrêmement importants. Avec le drame qui s'est passé là récemment dans une crèche de la ville de Rouen, on voit à quel point c'est un sujet qui est sensible, mais également sur la question de la propreté de la ville, de son attractivité, la question du logement, enfin tous ces sujets-là qu'on nous a portés pendant la campagne. Nous, on a dit lors de ce conseil municipal d'installation, nous serons au rendez-vous des Rouennaises et des Rouennais qui espèrent autre chose pour leur ville et qui n'ont pas fait le choix de la majorité actuelle, parce que c'est aussi ça la démocratie.
D'ailleurs, pensez-vous que le fait que la majorité actuelle soit de nouveau installée, elle va peut-être changer comparé au bilan de 2020 et de 2022, c'est-à-dire qu'elle vous écoutera peut-être plus, elle prendra peut-être plus de conseils auprès de vous, ou vous pensez qu'ils feront, entre guillemets, du fait qu'ils ont une majorité pleine et entière, un peu les choses à leur façon?
Ils ont une majorité pleine et entière. Du coup, ils n'ont pas besoin de nous pour décider de quoi que ce soit. Après,
D'écouter l'opposition.
Exactement.
Aussi.
Je partage absolument. Et même d'être plutôt constructif, notamment quand il y a des sujets sensibles. Alors après, le maire actuel nous a ouvert un peu plus la porte à la représentativité de manière proportionnelle. Donc on siège dans certaines instances où on n'était pas sous le précédent mandat. Donc c'est une forme d'ouverture. On peut le considérer ainsi et on l'apprécie. Hein. On a un membre de notre équipe qui est président de la CAO, c'est la commission d'appel d'offres, là où on voit passer les grands marchés publics au-delà d'un certain montant financier, ce qui fait qu'on a un point de vigilance, un point de regard, d'attention, pour éviter qu'il y ait des erreurs phénoménales qui se reproduisent, comme par exemple, je ne sais plus si on en avait parlé ensemble, mais l'amende de 1 million d'euros qui avait été imputée à la ville de Rouen pour non-respect des marchés publics sur la procédure sur la Bastiale Saint-Ouen. Ça, par exemple, c'est 1 million d'euros, c'est énorme 1 million d'euros. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire dans les quartiers avec 1 million d'euros, qui ont été perdus parce que la ville de Rouen n'a pas respecté le code juridique des marchés publics. Et donc ça, le fait qu'on soit dans cette commission d'appel d'offres permet d'avoir une vigilance plus forte et de pointer du doigt ce qui pourrait être des irrégularités. Mais ce n'est pas le seul biais. Il y a d'autres instances dans lesquelles on siège désormais. Donc on sera vigilant, on sera ferme, mais on ne sera pas là pour être les empêcheurs de tourner en rond. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc on sera là pour agir de manière constructive et souligner quand on considère qu'il y a des sujets qui vont pas bien sur le logement social. Je siège à Rouen Habitat par exemple, donc ce sera ma mission d'être vigilante sur ces sujets-là et sur plein d'autres enjeux.
Pardonnez-moi de revenir un peu en arrière, mais c'est vrai qu'on va revenir un peu aussi sur le temps de la campagne. On vous a vu beaucoup active. Le sujet principal que les habitants de Rouen vous ont demandé de porter était lequel? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de choses, le logement, l'éducation, le commerce, mais le sujet qui vous a vraiment le plus parlé auprès des habitants qui sont venus à vous en vous disant « nous, voilà, c'est ça qui nous dérange le plus ».
Je ne vais pas faire de bullshit. Le sujet qui revenait le plus, c'était celui de la sécurité sous tous ses angles. Parce que la sécurité, ce n'est pas uniquement de la police. Hein. C'est simplement se sentir bien dans la ville où on est, se sentir protégé, ne pas se questionner sur si je sors tard le soir, est-ce que je risque de me faire agresser, ne pas se questionner sur est-ce que si je traverse la rive, parce qu'on a encore ces stéréotypes-là, malheureusement, je vais me faire voler mon portefeuille. Et donc forcément, c'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui, surtout quand on est à Rouen, la 4e ville la plus dangereuse de France. Voilà, ça a été un vrai sujet pendant la campagne. C'était pas un sujet pour faire peur, c'était pas un sujet pour attirer des électeurs en particulier, c'était un sujet du quotidien des habitants. Donc oui, on l'a pris très au sérieux, on avait des mesures très fortes, très claires, sur lesquelles on s'est engagé, sur lesquelles on sera vigilant. bilan pendant la durée de ce mandat. Mais c'est un sujet parmi d'autres. Moi, j'aimerais aussi parler, par exemple, d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'enfance et l'éducation.
Vous pouvez vous poser la question.
Bah oui, moi, je suis maman de 3 enfants. Donc forcément, j'ai entendu les familles qui s'inquiètent parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des places en crèche. J'ai entendu les mamans qui s'inquiètent parce que dans certains quartiers, après l'école, il n'y a rien pour leurs enfants. Donc ils finissent par traîner à droite, à gauche. Et quel avenir est-ce qu'on leur offre? La problématique du périscolaire, quelle formation pour les animateurs de périscolaire, quel accompagnement, parce qu'on peut les pointer du doigt, mais la ville ne leur donne pas les moyens de pouvoir bien faire leur travail. Et quand on voit qu'un animateur périscolaire, il préfère aller dans une autre commune de la métropole plutôt que de rester à Rouen à cause de la précarité du job,
rappelons tout simplement qu'un animateur en périsco, pour qu'il assure la cantine chaque midi, est payé par mois entre 300 et 400 euros, même pas. Sachant qu'au moment où il commence, c'est-à-dire à la rentrée de septembre, son salaire lui est versé que fin octobre.
Oui, donc mais bien sûr, moi j'ai été alertée.
La dinguerie, pardon d'utiliser un mot familier, mais la dinguerie du truc...
Et puis la précarité. Vous ne pouvez pas dire à un jeune, tu vas travailler à partir du mois de septembre, mais comme tu as commencé mi-septembre, du coup on n'a pas pu bien enregistrer ta fiche de paye, donc ça ne va pas se décaler sur octobre parce qu'il y a un problème informatique, donc finalement ça va arriver en novembre. Le jeune qui prend ce job-là parce qu'il fait ses études à côté, par exemple, c'est souvent le cas, il a besoin d'avoir une stabilité financière. Et puis... il y a un sujet aussi, c'est que dans le périscolaire, que ce soit dans les écoles ou dans les centres aérés, il n'y a pas une obligation de 100% de BAFA. Et donc, il y a une partie des jeunes qui viennent pour faire parfois du remplacement ponctuel, donc c'est encore plus précaire, et qui n'ont pas ce BAFA. Et on ne les engage pas dans un processus de participation à la formation du BAFA. Donc, il faut les accompagner. Et puis, il faut réussir à sécuriser certains parcours. C'est important.
Continuons sur le thème de la petite enfance. Quand vous avez entendu parler de l'affaire de la crèche, quelle a été votre première réaction ?
Ma première réaction, ça a été de l'incompréhension. Pourquoi ? Parce que je l'ai appris par la presse, comme toutes les familles en fait. Et dans une situation comme celle-ci, quand on gère une crise de cette ampleur, c'est pas la presse qui doit informer les gens. En tout cas, je considère que les familles méritaient d'être informé avant que ça sorte par un communiqué de presse. Et qu'en tant qu'élu d'opposition, c'est pas une question d'être surtraité, mais c'est une question de... C'est logique, si vous voulez pas que votre opposition elle s'empare du sujet et qu'elle en fasse une polémique, vous l'informez. Vous anticipez l'effet boule de neige que vous allez avoir en retour. Et il y a eu une extrêmement mauvaise communication sur le sujet. Une fois que c'est dit, ça s'arrête pas là. Il faut entendre maintenant la colère, l'inquiétude, l'effroi et le désarroi qui sont absolument légitimes des parents. Y a deux établissements qui sont concernés, une crèche et une école scolaire. Et donc forcément, moi j'ai participé en toute modestie, en toute discrétion, sans intervenir à une réunion d'information auprès des familles. J'ai entendu... que les réponses apportées par la mairie et notamment par le maire n'étaient absolument pas satisfaisantes. Il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas d'informations précises, il y avait des questions dont les réponses restaient vagues, des questions qui restaient simplement dans le vide, et forcément, on ne peut pas se permettre ce tel niveau d'amateurisme dans la gestion d'une situation comme celle-ci. Protéger nos enfants. Moi, j'ai des enfants, ils sont petits, ils ont 4 ans, 2 ans et demi et 10 mois. Forcément, quand on est parent et qu'on confie nos enfants, que ce soit dans une crèche ou dans une école, on doit pouvoir le faire en pleine confiance. C'est essentiel. C'est des gens qui vont s'occuper de nos enfants du matin jusqu'au soir, quand nous, on est au travail ou quand on est sur d'autres engagements. Et aujourd'hui, quand... On se rend compte avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, MeToo et plein d'autres scandales sur les agressions sexuelles, que ça vient toucher ce qui, dans notre âme de parents, est le plus cher pour nous, c'est-à-dire notre propre chair, C-H-A-I-R, c'est dramatique. Donc, il faut impérativement que... la municipalité et l'équipe du maire actuel s'engagent avec des mesures fermes. Aujourd'hui, ils ont lancé un audit sur la crèche concernée, sur l'école concernée. Nous, on dit que c'est pas assez. Bien entendu qu'il faut un audit, mais il le faut sur tous les établissements, parce que rien ne dit qu'il n'y a pas peut-être une catastrophe qui sommeille ailleurs, que personne n'a encore... Bien sûr.
Je ne veux pas faire le polémiste à l'antenne, mais si on se réfère, et on l'a un peu dit sans le dire, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde est connecté.
Bien sûr.
Et on sait le drame périscolaire à Paris.
Oui.
Et on sait le nombre d'ampleurs qu'il y a à Paris. Donc les gens, par effet de boule de neige, peuvent s'imaginer une affaire par une affaire.
Oui.
Et comme vous dites, retrouver peut-être ou peut-être pas ce type de personnes dans d'autres établissements.
En tout cas, même si jamais il n'y avait rien, faire un audit et un contrôle dans l'ensemble des établissements concernés, crèches et écoles, c'est essentiel. Mais il faut aussi que ce contrôle il soit indépendant. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'informations sur l'audit. Est-ce qu'il est indépendant ? Non, s'il est mené par la ville de Rouen, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il soit indépendant, c'est-à-dire quelqu'un extérieur qui vient échanger avec les professionnels, qui vient comprendre les modes d'organisation professionnels pour pouvoir faire un constat neutre. Ça, c'est essentiel. Et moi, j'ai même écrit au président du département pour demander que la PMI, la protection maternelle et infantile, vienne faire un contrôle. Ce n'est pas pointer du doigt la ville de Rouen en faisant ça. C'est simplement que la ville de Rouen, dans une situation comme celle-ci, elle ne peut pas rester toute seule. Elle a besoin de s'appuyer sur les autres collectivités qui sont des partenaires, qui ne sont pas des ennemis et qui peuvent venir avec un contrôle, avec des moyens supplémentaires, aider à sortir de cette situation de crise qui est dramatique aujourd'hui. Il en va de la protection de nos enfants et je pense que c'est la priorité aujourd'hui, la protection de nos enfants.
Ce que j'entends dans votre parole, c'est dépassons les couleurs politiques et allons à l'essentiel.
Bien sûr, absolument d'accord, c'est absolument ça. On arrive dans un système où les gens n'en peuvent plus de la politique parce que quand vous regardez ce qui se passe à Paris ou ailleurs, vous avez en permanence des conflits et des bisbilles entre telle partie, entre la droite, entre la gauche, entre l'extrême, entre le machin, entre le truc. Les gens n'en peuvent plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 50% de gens qui sont allés voter aux élections municipales à Rouen ? Mais parce qu'il y a 50% de gens qui n'en ont plus rien à foutre, en fait. Qui n'y croient plus. Qui en ont ras-le-bol. Et ça s'entend. Parce qu'on est en permanence en train de se friter sur des petits bouts de machin et on donne une image déplorable de la politique. Et je pense qu'on doit être les premiers ici à l'échelle locale à montrer l'exemple et que la ville de Rouen, même si elle est de gauche, et que le département de la Seine-Maritime, même s'il est de droite, ils sont capables de travailler ensemble, non ?
Ce serait la base normalement de
ce
du travail collectif
dans
en République.
Dans une boîte, dans une entreprise, Naïm, dans une entreprise, vous mettez des gens autour d'une table, ils pensent tous des choses différentes, ils bossent ensemble. Donc à un moment donné, sur les sujets qui sont des sujets essentiels et qui concernent nos enfants, dépassons ces clivages-là pour trouver des vraies solutions et des solutions pérennes. Sinon, on va droit dans le mur. Sinon, qu'est-ce qui se passera ? Bah, je vous le souhaite pas, et je me le souhaite pas, et je le souhaite à personne, et encore moins à la France. Dans quelques mois, vous aurez à la tête du pays un extrême, et ce sera catastrophique.
Justement, vous, maintenant, dans la municipalité, dans le conseil municipal, ils sont là, ils sont présents, enfin, on peut les appeler comme ceux-ci, beaucoup le font, la France Insoumise et le Rassemblement National. Comment vous trouvez justement leur participation au conseil ? Moi, pour avoir regardé, pour avoir pu assister, on sent que ils sont là à chercher un peu
la petite
chose
bête.
À dire.
Ouais, bien sûr, la petite bête, la petite polémique, la petite phrase.
C'est-à-dire que par rapport à il y a un an où j'ai pu regarder des séances de conseil, là, c'est moins calme.
C'est moins calme.
On a l'impression que c'est une petite assemblée nationale.
Et bizarrement, ouais, exactement. On pourrait comparer ça à une petite assemblée nationale. Et bizarrement, plus l'élection présidentielle va approcher, plus ça va se cristalliser. Moi, je respecte tout le monde. C'est l'exercice démocratique. Les Rouennaises et les Rouennais ont voté. L'année prochaine, les Français vont voter. Donc oui, il y a différentes sensibilités politiques dans notre pays. C'est une réalité. Maintenant, je tiens à rappeler une chose, et on a été particulièrement vigilants là-dessus pendant les 6 dernières années, puisque ça fait 6 ans, moi, que je suis élue, avec des nouveaux élus, mais on en parlera peut-être un petit peu après, à ce qu'on s'intéresse aux enjeux locaux, à ce qui concerne les Rouennais et Rouennais. Et là, aujourd'hui, avec LFI comme avec le RN au sein de l'Assemblée municipale, bah oui, on se retrouve avec des polémiques nationales qui viennent dans les débats, on se retrouve avec des petites phrases, avec des petites invectives, et ça pollue les échanges. Moi, je le regrette. Maintenant, il n'y a pas le choix, hein, c'est l'exercice démocratique, donc tout le monde a la parole. Ça, je le respecte, mais je le regrette.
Effectivement, parce que on voit bien que beaucoup essaient d'amener des sujets nationaux ou une politique politicienne au niveau national, alors que normalement on est censé parler des Rouennais et des Rouennaises. Alors, je ne suis pas là pour juger, car je ne suis pas un acteur politique, je ne suis qu'un intervieweur, mais on voit bien que c'est souvent, voilà, on essaye de tout le temps ramener les clivages. Et vu qu'il y a une guerre intestine à l'approche de la présidentielle entre l'EPS et la France Insoumise, les conseils ne sont plus aussi calmes qu'avant, et peut-être que du coup, pour trouver des solutions par rapport au périsco, pour trouver des solutions par rapport au logement, pour trouver des solutions sur le commerce, c'est de plus en plus compliqué.
En tout cas, il n'y a eu qu'un seul conseil municipal aujourd'hui où on a vraiment voté les délibérations. Le premier, c'est les conseils d'installation. Donc, on verra au prochain comment les choses se passeront. Mais j'espère qu'on arrivera à en sortir plutôt grandi dans l'intérêt des Rouennaises et des Rouennais et pas encore sur les petites joutes oratoires qu'on voit poindre à l'extrême droite comme à l'extrême gauche et dans lequel le maire de Rouen s'insère assez facilement, je dois dire quand même. Si vous avez suivi le conseil métropolitain, la manière que le maire de Rouen et donc le président de la métropole a de parler aux élus des extrêmes est quand même assez décevante globalement parce qu'il ne fait qu'attiser en fait ce système de polémique.
Revenons un peu au soir du deuxième tour, aux résultats. Vous étiez dans votre sujet campagne, je suppose.
Oui.
Comment vous avez pris justement le fait de plus de 7000 Rouennais, j'allais dire 7000 Français, décidément, je.
Ça n'est pas beaucoup de Français.
comment vous avez pris justement l'accueil des votes en votre faveur des 7000, enfin des plus de 7000 Rouennais qui ont voté pour vous?
Très honnêtement, au soir du premier tour, on avait 20 points de retard. Je ne suis pas naïve, j'ai bien conscience qu'avec un taux de participation de 50%, 20 points de retard, c'est irrattrapable. Ça n'a pas empêché d'aller se battre à fond la caisse, comme on peut le dire, dans l'entre-deux-tours, pour aller convaincre déjà ceux qui nous avaient fait confiance de continuer à nous faire confiance, parce que le risque dans un second tour, c'est de perdre de l'électorat. Et en effet, on est passé de 50 à 47% de participation, donc on a perdu de l'électorat pour tout le monde. Hein. Mais nous, notre objectif, c'était de continuer à mobiliser notre électorat, d'aller convaincre ceux qui n'étaient pas allés voter de venir voter, bien entendu, et de ceux qui avaient fait un autre choix au premier tour de se retourner vers nous. J'ai été heureuse que ce travail ait payé parce qu'on fait partie des rares candidats qui ont fait plus au second tour qu'au premier, qui ont gagné des voix, parce que LFI a fait plus en pourcentage mais a perdu des voix, donc nous on a gagné des voix, ce qui nous a permis d'aller chercher un siège supplémentaire au conseil métropolitain. Donc on est 4 élus de mon groupe réussiront à siéger à la métropole. Et puis bien sûr, je m'attendais pas à gagner, sur le plus grand des miracles, peut-être, mais j'avais conscience qu'on n'allait pas gagner. Maintenant, on devait faire le meilleur, le mieux. Et c'est ce qu'on a fait. Et moi, je profite du micro pour le dire. Je suis particulièrement fière de l'équipe qui m'entoure. Je suis particulièrement fière des 54 candidats plus 1,55 avec moi qui étaient sur cette liste. Mais pas que de eux, de tous ceux qui se sont engagés dans cette campagne, des gens dans les quartiers. Je pense ici sur les Hauts-de-Rouen à Marion, à Denise, aux deux Karine, à tous celles et ceux que j'ai croisés. Et je veux leur dire merci parce que parfois on ne s'en rend pas compte, mais une aventure municipale, certes, il y a une tête de liste, c'est la personne que vous voyez sur les affiches, c'était ma tête sur les affiches, mais il y a plein de gens derrière. Et c'est une formidable aventure collective, humaine, dans laquelle on se transcende, on se dépasse, on donne le meilleur de soi-même. Et moi, je ne suis rien sans les autres. Moi, je ne suis pas une individualiste, je fonctionne en équipe et je fais confiance aux gens avec qui je travaille et j'ai fait confiance à toutes les personnes qui ont fait cette campagne avec moi et je prends cette perche, Naïm, pour leur dire merci du fond du cœur parce que sans eux, je ne serais rien.
Ce qui est intéressant pour vous avoir suivi tout au long de cette campagne, c'est que beaucoup vous collez une étiquette de femme de droite, alors que vous avez toujours mis en avant le dépassement politique et surtout le fait de s'entendre avec des modérés de gauche ou des modérés de droite pour aller justement réussir dans le projet que vous proposez.
Après, moi, j'ai toujours été centriste dans mon attache à des partis politiques. Mais le centre a toujours été allié avec la droite. Et donc forcément, de manière un peu réductrice, je suis une femme de droite. Mais je n'ai pas de problème à dire que je suis heureuse de travailler avec une droite intelligente, une droite républicaine, une droite modérée, une droite qui croit aux valeurs de la France, parce que c'est important, je pense, de croire aux valeurs de la France sans extrémiser tout ça. Mais de la même manière, je suis une centriste profondément humaniste. Et donc, j'ai aucune difficulté à parler avec des gens sociodémocrates, issus de la gauche, gauche, déçus du socialisme, qui partagent des valeurs de réussite, de progressisme, des valeurs de mérite, autant que moi je peux le faire. Donc en effet, je suis une femme de compromis, d'équilibre, de justesse peut-être. Peut-être que c'est ce qui me fait défaut aussi, peut-être d'être capable de parler avec tout le monde, alors qu'il faudrait dans un monde politique très bipolaire et très clivant, marquer très franchement des sensibilités. Moi, c'est pas ma manière de faire, et en tout cas, je changerai pas là-dessus parce que je pense que c'est les valeurs qui me caractérisent.
Marine Caron, vous êtes une femme d'expérience maintenant dans le monde politique.
Vous, une dizaine d'années que je suis engagée, ouais.
Vous ne pensez pas que le clivage gauche-droite va revenir même après la fin du mandat d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire que si on va dans une logique, je pense que le clivage gauche-droite, à part sur des sujets précis, ne peut pas revenir. En fait, on est obligé d'aller dans ce dépassement.
Il est en train de revenir. Emmanuel Macron, quand il est arrivé en 2017, il est arrivé avec la promesse de dépasser les clivages. Ça a un peu fonctionné au début, hein. Je pense que tout le monde a vu ce qui se passait et ça a plu. Maintenant, si on tire le bilan des deux mandats, bon, je pense que tout le monde est déçu à la fin. Donc, au final, on se dit tout ça pour ça. Peut-être parce qu'il n'a pas réussi à transformer l'essai, parce qu'il était sur certaines choses trop auto-centré sur lui-même et convaincu qu'il était le meilleur et qu'à lui seul il pourrait tout réussir, ce qui n'a pas été le cas. Je pense que la force d'un élu qui s'engage en politique, c'est aussi de reconnaître ses erreurs. Moi, j'aime bien la théorie de l'aveu. Avouer qu'on n'est pas parfait, qu'on est tous humains, qu'on peut se tromper. Bon, certains ne savent pas le faire. Et il est arrivé, Macron, avec ce fait de dire il n'y a plus de clivage, moi je réunis tout le monde. Et sauf que les clivages, ils sont revenus. Hein. La bipolarisation, elle est revenue avec les extrêmes, avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Ce qui peut se passer aux élections présidentielles l'année prochaine, étant donné que à droite et au centre, personne ne se met d'accord et qu'à gauche, personne ne se met d'accord, c'est d'avoir au second tour extrême droite et extrême gauche. Et donc cette bipolarisation, si c'est le cas, eh ben, elle se recrée encore de manière encore plus forte en mai 2027. Et là, on pourra qu'être inquiet, en tout cas de mon point de vue et de mes valeurs, sur l'avenir de la France.
Continuons avant de faire une petite pause, une petite dernière question. Allons-nous vous voir encore sur le terrain dans les prochaines années? C'est-à-dire que moi, par exemple, récemment, j'ai fait le marché du Châtelet et j'ai entendu, non pas vous concernant, mais concernant les politiques en général de Rouen, c'est depuis la fin de la campagne, on ne les voit plus.
Oui, c'est classique. Je le regrette, c'est classique. Alors, je suis sur le terrain, j'y suis toutes les semaines depuis. Il y en a même qui m'ont dit, mais t'es encore en campagne, il faudrait peut-être que t'arrêtes. Donc, je n'arrête pas parce que l'engagement, il est au fond de moi. Mais Naïm, vous avez absolument raison. En fait, les gens, ils ont besoin de nous voir, pas de nous voir de temps en temps. Après, ils ont besoin aussi de comprendre qu'on a eu besoin de souffler après la campagne. C'était intense quand même. Qu'on a aussi une vie professionnelle, une vie familiale et que dans tout ça, il faut trouver le bon équilibre, mais je suis sur le terrain, je serai au rendez-vous du terrain et je continuerai d'être sur le terrain parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important.
Et bah désormais, je vais repasser la main à ma copilote d'émission, Inès, qui va nous faire la petite pause musicale.
Et oui, bonjour Marine Caron, au passage, je vais vous proposer une pause musicale, le temps aussi que les auditeurs réceptionnent un peu ce que vous avez dit. Et on va se retrouver dans une deuxième partie, on va parler vie associatis, QPV, vous allez donner votre regard. On revient, à tout de suite.